Europe 1.
8h13, votre invité Sonia Mabrouk ce matin est journaliste, auteur d'un livre intitulé « Les lapins ne mangent pas des carottes » chez Fayard.
Bienvenue ce matin sur Europe 1 et bonjour Hugo Clément.
Bonjour.
Effectivement, les lapins ne mangent pas de carottes. On va revenir sur ce titre et cette réalité, mais d'abord en sous-titre, il est écrit « Changeons de regard sur les animaux ». Selon vous, quel regard avons-nous sur les animaux pour devoir le changer ?
On a un regard de domination et on se place tout en haut de la pyramide du vivant. On a l'impression que l'être humain est l'espèce la plus intelligente, la plus forte, alors qu'on est en fait, aux yeux de l'évolution, une espèce très fragile. Et c'est ce sentiment de supériorité qui nous autorise à traiter les animaux comme on le fait aujourd'hui, alors que tout ça est un énorme malentendu et qu'on est juste une espèce animale parmi les autres.
On va essayer de lever justement ces malentendus au cours de cette interview. Vous racontez, Hugo Clément, l'une de vos rencontres dans la forêt de Bwindi au sud-ouest de l'Ouganda, rencontre avec un gorille, et vous dites ceci: rien de plus efficace qu'une rencontre avec un grand singe pour nous renvoyer à notre animalité, car nous ne sommes rien d'autre que des animaux. C'est-à-dire que pour vous, l'être humain est un animal comme les autres, nous ne sommes qu'une nuance du vivant?
Tout à fait. D'un point de vue biologique, on est des singes. Et on est une espèce humaine parmi d'autres qui nous ont précédés. On a tendance à penser qu'on est les premiers humains, mais l'Homo sapiens, notre espèce, n'a fait que succéder à d'autres comme Néandertal. Et on est un maillon de la grande chaîne du vivant. Si vous voulez, la biodiversité, je prends souvent cette image-là, c'est comme une maison. Chaque espèce est une brique et nous, on fait partie de cette maison-là. Donc si vous enlevez une brique ou deux, il se passe rien. Si vous enlevez une dizaine de briques, il commence à y avoir quelques fissures, mais la maison tient. Vous enlevez une centaine de briques, là, il y a des bouts de plafond qui vous tombent sur la tête et on commence à s'inquiéter. Puis si vous enlevez des milliers de briques, là, toute la maison s'effondre. Et on est juste une brique de cette maison, nous les humains.
Mais si on suit votre logique, ça veut dire qu'il n'y a pas de frontière entre l'homme et l'animal. Et si on va plus loin, ça veut dire que si on met une frontière, ce serait une forme de discrimination à l'égard des animaux, une forme de, disons le mot, de racisme anti-animaux.
Non, il y a une frontière entre chaque espèce. Chaque espèce est différente, a ses propres capacités cognitives, sa propre culture, ses propres manières de fonctionner et d'interagir avec le monde. Donc la frontière, elle existe entre l'humain et le singe, elle existe entre la fourmi et le pigeon.
Si vous considérez qu'on est un animal comme les autres,
on est différent. Chaque espèce est différente. En fait, on mélange tout. La différence, ça veut pas dire que on est tous, ça veut dire qu'on n'est pas tous pareils, mais qu'on fait partie d'un tout. Et chaque maillon d'une chaîne est un maillon différent, mais on fait partie d'une chaîne. Donc c'est pas contradictoire ces deux idées.
Vous dites qu'il y a une différence, mais qu'il faut quand même abolir les frontières. Jusqu'où ça peut aller? Est-ce que certains animaux peuvent être supérieurs à des humains?
Non.
Peut-être des
en fait,
humains malades
je questionne
ou affaiblis.
Dans...
Qu'il faudra même mieux traiter certains animaux que des humains.
Non, ce que je questionne dans ce livre, c'est justement cette hiérarchie qu'on fait. On n'est pas supérieur aux autres espèces, on est différent. Ça veut dire que les autres espèces ne sont pas supérieures à l'humain.
Mais vous mettez un signe d'égalité, c'est quoi différent ?
Non, en fait, chaque espèce accorde une importance prioritaire à sa propre survie, à celle de ses congénères. Donc évidemment, si votre question c'est de savoir est-ce qu'il vaut mieux, dans une situation de détresse, sauver un humain ou un animal, évidemment, en tant qu'humain, je vais vous répondre qu'il faut sauver un humain.
Et c'est une évidence. Mais vous êtes convaincu par la réponse ?
Bien sûr, je suis convaincu par la réponse. Mais toutes les espèces accordent une importance prioritaire à leur propre espèce. Donc c'est un raisonnement normal, un raisonnement animal, d'aller d'abord porter assistance à un humain quand il y a un problème.
Pourquoi je vous pose la question, Hugo Clément ? Je ne sais pas comment vous vous définissez. Est-ce que vous êtes un animaliste ? Parce qu'il y a les travaux de Peter Singer qui a écrit la Bible du mouvement animaliste et qui fait de la libération animale une question politique. Voici ce qu'il dit. Il existera certainement certains animaux non humains dont la vie, quels que soient les critères retenus, aura plus de valeur que celle de certains humains. Un chimpanzé, un chien ou un porc, par exemple, aura un degré plus élevé de conscience de soi et une plus grande capacité à entretenir des relations avec d'autres que n'en aura un jeune enfant gravement malade, mentalement déficient ou une personne en état de sénilité avancée. Ça vous choque ou vous inscrivez pas, j'imagine, dans ce mouvement ?
Non, je m'inscris pas dans ce type de discours parce que je pense que c'est contre-productif. Ce qu'il dit, en fait, ce qu'il faut comprendre dans ce qu'il dit, c'est que si vous prenez les capacités cognitives, si vous classez les espèces en fonction de leur capacité à interagir avec le monde, effectivement, un chien adulte peut apparaître comme plus intelligent qu'un bébé de quelques semaines. Parce que il arrive à reconnaître les formes, il arrive à reconnaître la voix de son maître, à écouter les ordres.
Mais
donc ça dépend ce qu'on prend comme critère.
Oui, mais c'est
justement,
subjectif
moi, ce
dans
que
ce
je
qu'elle
dis,
a l'intelligence.
Juste,
oui.
Mais tout est subjectif dans la manière dont on interagit avec le monde. Et justement, ce que je dis dans le livre, c'est qu'il faut arrêter de faire des hiérarchies et d'utiliser cette hiérarchie pour exploiter le vivant et maltraiter les animaux. Mais ça veut pas dire que c'est contre l'humain. Au contraire, la manière dont on se comporte avec les animaux aujourd'hui se retourne contre l'humain. L'élevage intensif, par exemple, non seulement fait souffrir les éleveurs, mais détruit l'environnement dont on dépend, mais nous, les humains, pour survivre.
Quand j'ai dit que vous étiez animaliste, vous ne m'avez pas repris. Or, Peter Singer est aussi un animaliste.
Animaliste, c'est comme écologiste, vous pouvez mettre plein de choses dedans différentes. On peut être animaliste et dire qu'il faut, par exemple, abolir complètement l'élevage, ou vous pouvez être animaliste et dire qu'il faut améliorer la condition des animaux.
Alors, où s'arrête votre radicalité? Est-ce qu'un jour, elle pourra aller jusqu'à Peter Singer?
Moi, en fait, j'essaie de sortir des caricatures et d'avoir une approche réaliste de la situation. Le monde dans lequel on vit est un monde violent. Les écosystèmes sont violents. Le rapport entre la proie et le prédateur, c'est un rapport violent. Quand un loup mange un chevreuil, c'est de la violence. Donc, je suis pas en train de dire qu'il faut un monde sans violence. Par contre, il faut se poser la question de la nécessité de la violence qu'on exerce sur les autres. Quand vous êtes en Amazonie et que vous chassez, pour survivre, c'est une violence nécessaire. Quand vous êtes en France et que vous tirez sur des faisans qui ont été élevés et qui ont été lâchés à l'arrière du camion quelques heures avant, c'est une violence qui n'est pas nécessaire.
Certes,
la question, c'est celle-ci.
Oui.
C'est est-ce que la violence qu'on exerce sur les animaux est nécessaire?
Mais est-ce que vous n'êtes pas en train de culpabiliser l'homme, coupable de tout? D'ailleurs, c'est l'un des titres de votre chapitre. Vous dites « Pour nous le plaisir, pour eux la souffrance ». Donc nous sommes les coupables éternels.
On n'est pas les coupables éternels. On est une espèce qui prend trop de place aujourd'hui. On est une espèce qui, et tous les chiffres le montrent, la biodiversité est en train de s'effondrer. On a perdu 80% des insectes en 30 ans.
Mais nous ne sommes pas n'importe quelle espèce. Est-ce que vous,
on
vous
est n'importe quelle espèce, bien
ah
sûr
bon
que si.
Vous niez à l'homme le monopole de la représentation de son environnement.
Oui.
Vous niez à l'homme en réalité sa spécificité.
C'est pas moi qui le nie, ce sont les scientifiques. L'homme n'est pas la
seule
espèce. Mais les scientifiques, les éthologues, les biologistes, l'homme n'est pas la seule espèce à se représenter son environnement. L'homme n'est pas la seule espèce à avoir conscience du temps, de l'espace. L'homme n'est pas la seule espèce à avoir conscience de lui-même. Donc tout ça, c'est des idées reçues qu'on a. Mais ça ne correspond pas à la réalité scientifique.
Vous savez comment ça s'appelle? L'antispécisme, c'est un travail de déconstruction de l'homme.
Peut-être, si vous voulez.
Je vous pose action, c'est une idéologie comme une autre. Mais
non,
si
c'est
vous
pas
en
la déconstruction de l'homme. Ça, c'est ce qu'on essaye de dire pour critiquer le discours.
Vous venez de tout nier de ce que nous avons comme spécificité.
Non, pas du tout, pas du tout. Au contraire, vous ne comprenez pas ce que je dis. Je nie pas la spécificité de l'homme. Au contraire, chaque espèce a sa propre spécificité. Mais spécificité ne veut pas dire supériorité. Il ne faut pas tout mélanger.
Vous avez parlé, c'est un sujet important, de l'élevage intensif et vous écrivez des pages, Hugo Clément, très argumentées. On ne peut être que d'accord avec vous et dénoncer cela. Mais dans la foulée, là encore je reprends le mot, mais vous allez peut-être le contester, vous culpabilisez l'être humain qui aime son chien, mais n'hésite pas à tuer le cochon pour le manger. Est-ce qu'au final, il faudra qu'on arrête de chasser, de pêcher et finalement de manger que de la nourriture cellulaire?
Alors je fais l'inverse de culpabiliser, puisque dans ce livre, j'explique justement que moi, pendant la plupart de ma vie, la majorité de ma vie, j'ai mangé de la viande, j'ai participé à des activités qui exploitent les animaux et que donc, je l'écris noir sur blanc, je suis très mal placé pour donner des leçons aux gens et dire ce qu'il faut faire. Ce que je fais avec ce livre, c'est donner des informations. C'est expliquer aux gens ce qui se passe dans les élevages, dans les abattoirs, dans les cirques par exemple, parce que si on ne sait pas, on ne peut pas agir. Et quand vous regardez les sondages, et je pense que la majorité de vos auditeurs sont d'accord avec ça, si vous demandez aux Français s'ils sont pour ou contre l'élevage intensif, vous avez 90% des gens qui sont contre. Vous demandez aux Français s'ils sont pour ou contre la corrida, vous avez plus de 70% des Français qui sont contre. Pour ou contre la chasse à courre, plus de 80% des Français sont contre. La majorité des Françaises et des Français sont pour l'amélioration de la condition des animaux.
Il y a chasseurs et chasseurs, tout à l'heure vous faisiez une nuance entre écologistes et écologistes, et sur la chasse, vous niez le lien, en tout cas la relation qui est faite entre chasse et ruralité, vous dites la chasse ne représente pas la ruralité.
Ah mais c'est pas moi qui le nie, c'est Thierry Coste, le lobbyiste de la Fédération Nationale des Chasseurs, qui dit dans une interview, on a réussi à installer l'idée fallacieuse que chasse est assimilée à la ruralité.
Mais c'est vous
c'est
en face de moi
le revendique.
Ce matin. Est-ce que pour vous quand même, la chasse a un lien intrinsèque, charnel avec la ruralité et
Qu'est-ce
la terre?
Qu'on appelle chasse? La chasse, quand il s'agit de survivre, ce qui est la base de la chasse, hein. L'homo sapiens c'est un chasseur-cueilleur, on allait tuer des animaux pour survivre. Ce qu'on fait en France, c'est pas de la chasse de survie. La plupart des chasseurs vont aussi au supermarché faire leurs courses. C'est de la chasse de loisirs. Et quand vous prenez, pour répondre à votre question sur la ruralité, le dernier sondage de la Fédération Nationale des Chasseurs, donc on ne peut pas accuser ce sondage d'être biaisé, ils demandent à chaque catégorie de personnes en fonction de leur géographie, est-ce que vous êtes chasseur ou non? Il y a 2% de chasseurs dans la ruralité, 2% de chasseurs dans les zones périurbaines, 2% de chasseurs à Paris. Donc, selon ce sondage de la Fédération nationale des chasseurs, la chasse est autant un sport d'urbain que de ruraux. Et demander aux ruraux ce qu'ils pensent des chasseurs qui viennent des zones urbaines le week-end pour s'amuser dans les forêts rurales qui causent des nuisances aux ruraux, parce que les personnes qui sont les plus en première ligne face aux nuisances de la chasse, ce sont les ruraux. Qui a peur d'aller se promener en forêt avec ses enfants? Qui risque de se prendre une balle quand il fait du VTT? Ce sont les ruraux.
Là, vous pointez, vous dénoncez des risques réels, mais certains dans la mouvance animaliste n'ont pas hésité, j'allais dire sans vergogne, à comparer l'élevage et l'abattage, on l'a entendu, avec la Shoah. Puisqu'il n'y a pas de différence entre l'animal
non,
et l'homme.
Non, mais ça c'est totalement...
Vous l'avez entendu.
Évidemment, mais ça c'est abject. Enfin, ça n'a pas de sens de comparer. Ce que j'essaye vraiment de faire dans ce livre, c'est au contraire d'expliquer qu'il faut arrêter les analogies avec l'être humain et qu'il faut arrêter de se baser sur nous, nos critères d'humain, pour juger les animaux. Donc évidemment, comparer l'élevage avec la Shoah, non seulement c'est abject pour les victimes de la Shoah et leurs descendants, mais en plus c'est un contresens. Ce n'est pas la même chose, puisque... notre attitude d'humain vis-à-vis des autres espèces ne peut pas être comparée avec notre attitude d'humain vis-à-vis d'autres humains.
Mais allons plus loin, d'où vient en fait tout cela? Certains disent, c'est la réalité, c'est le socle de la civilisation occidentale, judaïsme, christianisme. Est-ce que de votre point de vue, la Bible est responsable d'une forme de distance avec la nature? Et certains disent du mépris envers les animaux. Je vais vous réciter, c'est le récit de la Genèse qui dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. » Est-ce que le problème vient de la religion pour Hugo Clément?
Alors dans ce livre, je parle beaucoup du livre d'Elisabeth de Fontenay, qui est une philosophe qui s'appelle Le silence des bêtes et qui a retracé justement l'histoire de la philosophie et de la religion à travers notre rapport aux animaux. Et effectivement, Elisabeth de Fontenay, elle explique qu'il y a une rupture qui arrive avec l'avènement du christianisme, puisque le christianisme veut que l'homme est fait à l'image de Dieu. Et donc, on serait une espèce à part parce que c'est Dieu qui nous aurait créé à son image. Effectivement, quand vous regardez par exemple les philosophes grecs pré-socratiques, le célèbre Pythagore qu'on connaît tous avait un autre rapport aux animaux. Pythagore, par exemple, prenait le végétarisme parce qu'il estimait que c'était pas nécessaire d'exercer une violence sur les animaux. Rousseau, au siècle des Lumières, un des fondateurs de l'humanisme, prône aussi le végétarisme et le fait qu'il ne faut pas faire du mal aux animaux si on n'est pas obligé de le faire. Donc il y a plein de courants de pensée qui défendent ça, et effectivement, à l'inverse, il y a Descartes, Kant, qui défendent l'animal-machine, à savoir que c'est juste un objet à peine un peu supérieur aux objets, parce que c'est Dieu qui l'a créé, mais très inférieur à l'être humain. Donc la religion joue beaucoup dans notre représentation du monde.
La question, c'est le curseur. Où mettons le curseur dans tout cela? En lisant votre livre hier, j'ai relu un autre ouvrage du journaliste Paul Sugy, intitulé « L'extinction de l'homme, le projet fou des antispécistes ». Vous n'avez pas nié en être. Et il affirme que l'objectif, donc peut-être le vôtre, c'est de libérer les animaux pour mieux asservir l'homme. C'est votre projet?
Mais l'extinction de l'homme, qu'est-ce qui menace l'extinction de l'homme aujourd'hui, Sonia Mabrouk?
Dites-nous.
L'effondrement de la biodiversité, le changement climatique. C'est ça qui menace l'extinction.
Vous êtes un collapsologue, monsieur Clément ?
Mais je ne suis pas un collapsologue. On est une espèce animale. On peut disparaître. D'autres espèces humaines ont disparu avant nous.
Pourquoi vous n'avez pas foi en l'humain ?
Donc, je ne sais pas que j'ai pas foi en l'humain. J'ai foi en la biologie et en la science. L'espèce humaine est une espèce animale. Qu'est-ce qui menace notre disparition aujourd'hui? Qu'est-ce qui risque de provoquer notre disparition? C'est nos activités humaines. C'est pas les antispécistes ou les gens qui défendent les animaux. C'est le fait que dans de plus en plus de pays du monde, ça va devenir tout simplement inhabitable. C'est le fait que dans de plus en plus de régions de France, on manque d'eau potable. On a des maisons qui se fissurent parce que la sécheresse. On va devoir se rationner en électricité. On a des rendements agricoles qui chutent parce que la biodiversité s'effondre.
Qui n'est pas d'accord
c'est
en
nous.
Vous écoutant?
Oui, mais
sous couvert de bons sentiments, est-ce que vous n'avez pas un projet anti-humaniste?
C'est pas des bons sentiments.
Non, mais quand vous dites les animaux, on est tous d'accord.
Mais on n'est pas tous d'accord, c'est pas vrai. Parce que si on était tous d'accord, on arrêterait l'élevage intensif. On arrêterait de chasser des espèces en déclin.
Est-ce que les éleveurs, est-ce que les chasseurs que vous avez rencontrés ont vraiment le choix? À ceux qui n'arrivent pas à boucler la fin du mois, à nourrir leurs enfants, qu'est-ce que vous leur dites ce matin, parce qu'on est dans le confort de ce studio européen, qu'est-ce qu'on leur dit?
Pas tous, ils n'ont pas tous le choix. Et je le raconte dans le livre, je raconte ma rencontre avec des éleveurs qui disent justement, on nous a poussés pendant des années dans un système intensif à nous endetter, à acheter des bâtiments toujours plus grands, à produire toujours plus d'animaux pour gagner toujours moins d'argent, et maintenant j'ai tant de dettes, donc je dois continuer à fournir des animaux pour m'en sortir. Mais ça, c'est un choix politique. C'est l'État qui décide de subventionner l'élevage intensif.
Donc c'est un système à changer.
Exactement, c'est un choix politique. On peut décider d'accompagner les éleveurs qui sont pris au piège de ces dettes en rachetant leurs dettes, en les accompagnant pour aller vers un système d'élevage plus raisonné, qui détruit moins la nature et les animaux, tout ça est une question de choix politique. D'où l'importance pour les citoyens de dire aux élus, aux responsables politiques, agissez parce que c'est une question importante pour nous.
On va conclure, Hugo Clément, quels que soient les combats que l'on porte, on vous a entendu ce matin, on s'expose à la satire. C'est le jeu, vous en avez fait les frais avec une chronique de Gaspard Proust dans le journal du dimanche. Gaspard qui va venir dans quelques instants. Il vous avait qualifié d'Hemingway des tranchées en mousse. Vous n'êtes pas rancunier, ça vous a fait sourire.
Non, je ne suis pas rancunier.
Je ne cite pas tout ce qui a été dit parce qu'il y a une liste.
Non, mais quand vous vous exposez publiquement, c'est votre cas, c'est le mien, il faut accepter la critique, il faut accepter la satire. Et je pense que c'est important de savoir rire de soi-même. Il y a de plus en plus de gens qui sont très susceptibles et qui ne supportent pas forcément qu'on se moque d'eux. Mais quand vous êtes une personnalité publique, et c'est un choix, il faut accepter que les gens puissent ne pas vous aimer et puis faire de l'humour sur vous.
Et il faut lire pour se faire une idée. Les lapins ne mangent pas de carottes, et c'est une réalité. Hein, les lapins ne mangent pas de carottes. Les enfants nous écoutent en voiture. Je suis désolée.
Je l'ignorais totalement.
Dans la nature, ils ne mangent pas de carottes, ils mangent les fans races, des
voilà,
carottes.
Exactement.
Et si vous donnez trop de carottes à vos lapins domestiques, ils vont avoir des problèmes de santé parce que c'est beaucoup trop sucré pour eux.
Ah bon, mais on peut en manger pour nous parce que ça.
Ah, vous, voilà. Vous pouvez en manger autant que vous
ça
voulez.
Rend aimable.
C'est très bon pour
je
la santé.
Je sens que vous allez me le conseiller.
Pas du tout, vous êtes très aimable. Vous n'avez pas besoin de carottes.
Et chez Fayard.
Merci Hugo Clément, vous aussi êtes très aimable. Votre livre, donc, c'est pas publié chez Fayard, Les lapins ne mangent pas de carottes. Voilà, fake news, 8h20.